deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire dédiée à l'histoire des assemblées. Aujourd'hui, quel type d'assemblée pouvait bien exister au Moyen-Âge ? Hier, nous avons évoqué l'Ecclésia dans la Grèce antique avec Vincent Azoulay. Demain, nous évoquerons le système parlementaire des États-Unis naissant. Et aujourd'hui, nous serons au Moyen-Âge et nous nous interrogerons sur les influences du droit canonique sur le système de représentation des États généraux. Y en a-t-il une d'ailleurs ? Y a-t-il une influence ? Quels sont les processus de prise de décision, en tous les cas, à l'intérieur de l'Église médiévale ? Et ont-ils ces processus un lien avec les premières assemblées d'un État en voie de construction ? C'est ce que nous verrons grâce aux textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canouy et avec nos deux invités. Charles de Miramont, il est chargé de recherche au CNRS à l'École des hautes études en sciences sociales, et Caroline de Coster, qui sera en duplex depuis les studios de Radio France à Besançon. Elle est maître de conférences en histoire du droit à l'Université de Franche-Comté et elle a travaillé sur les assemblées politiques au début du XIVe siècle et en particulier celles qui étaient convoquées par Philippe le Bel. Bonjour Nathalie Canouy, nous commençons aujourd'hui par un texte d'un anonyme de décembre 1788 de la formation des États généraux.
Si l'on adopte le sentiment de l'abbé Dubos, il n'y avait parmi les Francs qu'un seul ordre d'hommes libres, tous appelés à voter dans les parlements ou assemblées nationales. Tous les Francs ont donc eu le droit de suffrage le jour où la servitude a été abolie. Et c'est ce droit que la nation entière est fondée à exercer. Rien ne peut l'anéantir. C'est sur lui qu'est fondé le contrat social. Si l'on croit avec Montesquieu qu'il existait parmi les Francs un ordre de noblesse et que cet ordre seul et le clergé étaient appelés dans les parlements, que seuls ont consenti nos anciennes lois et que Philippe le Bel fut premier qui, par politique, appelait le tiers-état aux assemblées nationales, alors je dirais, et tout Français libre dira avec moi, que jamais la nation n'a donné son consentement à un pareil droit usurpé par la noblesse et le clergé. Je dirais que cette forme de gouvernement n'est qu'une aristocratie dangereuse, qu'il serait de l'intérêt du souverain et de la nation de détruire si ce système de gouvernement existait encore.
Voilà donc pour ce premier texte de cette émission d'aujourd'hui dans notre série consacrée au régime d'assemblée qui va s'intéresser au Moyen-Âge. Mais nous commençons par un texte de 1788, alors que justement le roi Louis XVI convoque les États généraux. On réfléchit et on parle ainsi de cette longue histoire des assemblées, en particulier des États généraux inventés par Philippe le Bel. On peut dire que c'est une vulgate ancienne. Charles de Miramont, bonjour.
Oui, bonjour. C'est effectivement une vulgate ancienne, c'est le fantasme qu'ont eu les siècles après les siècles sur les assemblées du Haut Moyen-Âge. Donc on a un système d'assemblées au Moyen-Âge sur lequel on ne sait pas grand-chose. La seule assemblée dont on sait un petit peu, c'est l'assemblée islandaise, qui s'est tenue jusqu'à un peu plus tardivement. Et ce sont des assemblées du peuple en général, ce sont tous les hommes qui s'assemblent pour des décisions générales, pour lire la loi, et aussi pour bannir un grand nombre de gens qu'on considère n'étant pas dans le peuple. Ces assemblées vont disparaître. On va avoir un système intermédiaire médiéval qui mélange des assemblées représentatives et des réunions, c'est-à-dire des groupes plus restreints dans des pièces fermées qui correspondent aux nos réunions actuelles. Et ce système va perdurer, se transformer jusqu'aux assemblées parlementaires révolutionnaires et par la suite.
Oui, la même question à vous, Nathalie de Coster, Caroline de Coster. Vous êtes maître de conférences en histoire du droit. Vous avez travaillé justement sur ces assemblées politiques au tout début du XIVe siècle et sur ce Philippe le Bel qui est cité dans ce texte de 1788. Est-ce qu'on a beaucoup évolué sur ce que représente cette longue histoire de l'assemblée, de la représentativité depuis ce texte de 1788? 1588, et depuis ses travaux qui n'étaient fondés peut-être que sur quelques travaux d'encyclopédistes et peut-être de d'antiquaires du XVIIe siècle, en l'occurrence Caroline de Coster.
Oui, bonjour. Et effectivement, on a beaucoup évolué sur la question. Il faut comprendre une chose, c'est que cette question des assemblées, pendant longtemps, elle a, disons, l'historiographie était très politisée. On avait pris cette question comme un sujet finalement avec un arrière-plan extrêmement politique. Donc la question de la participation des sujets était, disons, biaisée. On l'abordait de manière un petit peu biaisée selon, disons, ce qu'on voulait y voir d'une certaine manière.
Selon qu'on était des républicains au XIXe siècle ou selon qu'on était monarchiste, par exemple.
Oui, c'est un peu ça. Toute l'historiographie du début de la Troisième République est à prendre avec certaines précautions. voilà, il ne faut pas être trop confiant quand on en commence la lecture. Il y a effectivement des éléments très intéressants, toujours fondamentaux dans l'étude de ces assemblées, mais beaucoup de travaux ont été repris. On a repris les questions, on continue à y travailler justement pour voir eh bien, quel était, comment ce dialogue entre le pouvoir politique, le pouvoir royal et les sujets s'est progressivement construit.
Vous dites dans un travail à paraître l'année prochaine, Charles de Miramont, aux belles lettres, que vous êtes en train de peaufiner un travail justement sur les chanoines séculiers en particulier et la question de la réunion chez ces chanoines séculiers. On va y venir avec vous. Vous dites qu'en fait, on nous replace souvent la question de l'archéologie de la démocratie participative, puisque vous faites toujours dans ce travail un aller-retour entre le présent et le Moyen-Âge, qui est votre spécialité. On la replace que dans une galerie d'exemples classiques et éculés des pratiques démocratiques, dites-vous. Et alors ça commence bien parce que nous on a commencé hier par l'Ecclésia d'Athènes. Vous dites il y a l'Ecclésia d'Athènes, la Convention, les parlements dans les deux derniers siècles, et on oublie ou on feint d'oublier que les débats participatifs ne sont qu'un mode particulier de la réunion. Alors votre travail est très intéressant parce que vous ne confondez pas justement ce qui est l'assemblée avec la réunion, ce qu'on fait souvent, et vous essayez de déterminer ce qui est de l'ordre, pourrait-on dire, du gouvernement d'une petite communauté par l'intermédiaire de ces réunions, de ces assemblées dont on parlera peut-être dans la deuxième partie, on parlera avec Caroline de Coster dans la deuxième partie de cette émission, qui sont plus larges peut-être, et vous essayez de déterminer les différents modes de prise de décision qu'il peut y avoir entre ces différentes formes de rassemblement au Moyen-Âge, Charles de Miramont.
Oui, en fait, je pense que le travail des historiens aujourd'hui, là où on progresse, on part aussi des crises de la démocratie occidentale actuelle. Ce qui fait qu'avant, on regardait comment on arrivait à notre super régime de démocratie. Et aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à comprendre comment ça fonctionnait différemment dans les périodes anciennes. Et en particulier, même le modèle de l'entreprise aujourd'hui, comment on prend une décision dans une entreprise, peut nous aider à mieux comprendre comment on prenait des décisions ou comment on cherchait le consensus dans l'Église, par exemple, au Moyen-Âge. Et ce ne sont donc pas des pré-démocraties, ce sont des méthodes de prise de décision, de chercher un consensus. Et l'une de ces méthodes les plus efficaces, ou qui a été conçue la plus efficace et qui est la plus caractéristique peut-être de la civilisation occidentale, c'est la réunion, dont on connaît encore aujourd'hui, dont on subit encore aujourd'hui le régime dans nos modes de vie, dans notre travail quotidien.
Tout de suite après cette émission, je vais d'ailleurs rentrer en réunion moi-même. Donc effectivement, comme beaucoup d'entre nous, on en a au moins une par jour de ces réunions. Alors Charles de Miramont, il y a tout de même quelque chose qui m'intéresse, parce que dans cette façon d'entrevoir cette différence entre assemblée et réunion, c'est que nous avons lancé cette année, par exemple, une série de petits précis d'histoire à l'usage des politiques. Et si nous l'avons lancé, cette série, c'est parce que nous avions lu régulièrement les travaux de Jacques Dallarin, par exemple, médiéviste, spécialiste en particulier des franciscains, de Saint-François d'Assise, de Sainte-Claire, mais aussi les travaux d'Olivier Christin, spécialiste de l'époque moderne, qui dans un livre qui s'appelait Vox Populi, il y a quelques années, expliquait qu'il fallait faire remonter justement la question de la délibération de l'Assemblée, non pas simplement à nos assemblées contemporaines ou révolutionnaires, mais bien plus haut, dans un régime qui était le régime de l'Église et de la façon dont on élisait en particulier les abbés dans les abbayes médiévales. Alors, vous dites, c'est peut-être vrai, vous ne contestez pas cette idée, effectivement, qu'il y a dans le processus électif quelque chose qui se passait spécifiquement dans ces assemblées médiévales, mais vous dites, il y a autre chose qui est inventée en même temps que cette élection de l'abbé, et vous pouvez insister sur cette question, cette différence entre les deux ?
Oui, alors, ce qui est peut-être le plus de l'Église telle qu'elle se développe en Occident, c'est la création de ces multiples petites communautés. Alors, il y a des monastères, il y a aussi des chapitres de chanoines qui vont apparaître un peu plus tard, vers le 11e, 12e siècle, qui vont grossir à ce moment-là, comme à Notre-Dame à Paris ou dans toutes les cathédrales de France.
Qui sont liées à des cathédrales.
Qui sont liées généralement à des cathédrales et qui sont nominalement gouvernées par l'évêque, mais en fait qui ont une grosse autonomie et qui décident de toutes les affaires, en particulier économiques, l'église locale, l'église cathédrale. Le fait qu'il y ait tous ces petits noyaux, si vous voulez, dans l'Occident, va créer toutes sortes de petites réunions. Alors, il ne faut pas voir ces réunions comme étant nécessairement des réunions où on discute, où on débat au début, mais ce sont des réunions où on fait passer de l'information, où parfois on punit des gens, où on met une certaine hiérarchie, mais où il y a petit à petit une certaine forme de débat,
de discussion,
voilà, organisée.
Alors, on peut partir de l'origine, c'est-à-dire de cette règle de Saint-Benoît qui règle la plupart des monastères de l'Occident médiéval. Un extrait de cette règle lu par Nathalie Canoui.
Chaque fois qu'il sera question au monastère de quelque chose d'important, l'abbé convoquera toute la communauté et dira lui-même de quoi il est question. Une fois entendu le conseil des frères, il en délibérera à part soi et fera ce qu'il juge le meilleur. Or, si nous avons dit que tous seraient appelés au conseil, c'est que souvent le Seigneur révèle à un inférieur ce qui vaut le mieux. Or donc, les frères donneront leur avis en toute soumission et humilité, et ils ne se permettront pas de défendre leur opinion effrontément. La décision dépendra de l'abbé, celle qu'il juge être le plus opportune, tous y obéiront. S'il est question de choses moins importantes pour le bien du monastère, il aura recours seulement au conseil des anciens, comme il est écrit « Fais tout avec conseil, et quand ce sera fait, tu ne le regretteras pas. »
Charles de Mirabon, un texte comme celui-ci nous dit quoi ?
Alors c'est un texte fondamental, pourquoi ? Parce que la règle de Saint-Benoît va être lue, va être méditée, va être apprise par cœur, et va même être lue dans les chapitres. Le chapitre, à la base, c'est la lecture d'un chapitre de la règle de Saint-Benoît.
Le chapitre, c'est donc cette réunion
dans cette monacale, dans cette salle capitulaire,
qu'on appelle le chapitre,
et qui est à la base le lieu où on lit un chapitre de cette règle. Donc de là vient son nom. Et c'est un texte, alors vous savez que le monastère bénédictin est vu comme une monocratie, c'est-à-dire que l'abbé est le père tout-puissant, qui a quasiment tous les pouvoirs. Mais Benoît dit non, certes il a tous les pouvoirs, mais il doit demander conseil. Et le mot conseil au Moyen-Âge signifie toujours un supérieur qui demande conseil à des inférieurs.
Parce que, dit effectivement la règle de Saint-Benoît, le Seigneur révèle à un inférieur ce qui vaut le mieux, souvent.
Souvent. Alors c'est l'idée que la vérité vient quelquefois chez les plus petits d'entre nous. Et Saint-Benoît va mettre deux concepts très importants. D'un côté, l'importance des anciens, des plus anciens dans le monastère. Et de l'autre, un peu plus loin, dans un morceau qu'on n'a pas lu, ce qu'on appelle la senior pars. Senior et senior en latin, la senior part, c'est la part la plus saine.
La plus saine, la meilleure.
Et ça va être un débat gigantesque au Moyen-Âge, se dire que non, ce qui est important, c'est pas qu'il y ait forcément une majorité des gens qui soient pour telle ou telle décision, mais la partie la plus saine, les gens les plus saints, les meilleurs, alors c'est
les plus méritants,
les plus religieux de la communauté.
Et donc ça, c'est donc le point de départ, pourrait-on dire, de cette façon dont l'abbé qui dirige donc et qui est élu par ses frères, donc dirige sa communauté et prend conseil auprès de l'ensemble de ce chapitre, de ses frères, pour pouvoir prendre une décision quand il y a décision à prendre. Vous citez par exemple Étienne d'Aubazine, qui est le fondateur donc d'un ordre qui s'est installé à Aubazine en Corrèze aujourd'hui, qui crée un double monastère, monastère d'hommes et monastère de femmes, et qui, pour prendre la décision de l'installation, parce qu'il faut agrandir ce monastère parce qu'il a beaucoup de succès, va prendre conseil auprès de ses frères dans cette communauté qu'il a lui-même créée, en l'occurrence Charles de Miramont.
Voilà, donc Étienne d'Aubazine, c'est un texte assez amusant, écrit par son biographe, semble-t-il quelqu'un qui était très indécis, il n'arrivait pas à prendre de décision, et
ce qui est généralement mal vu pour un fondateur,
généralement un fondateur c'est quelqu'un qui prend des décisions fortes, et son biographe va dire au contraire, c'est un très bon abbé parce qu'il prend toujours conseil auprès de tout le monde. Et donc va mettre en valeur cette obligation de conseil qui est ecclésiastique, qu'on a dans l'Église, mais qu'on retrouve aussi dans le monde laïque. Le roi ou les seigneurs doivent normalement demander conseil à leurs vassaux ou à leurs grands avant de prendre une décision. Donc c'est une règle générale au Moyen-Âge. Évidemment, ce conseil n'oblige pas le supérieur à prendre la décision. C'est juste une demande qui doit être faite rapidement et efficacement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les coutumes de Guigues, qui sont donc un autre texte qui est important et que va nous lire dans un instant Nathalie Canoui. Que sont ces coutumes?
Alors ces coutumes de Guigues, ce sont le premier texte qui organise les Chartreux, ordre qui va apparaître au XIIe siècle, qu'on connaît, qui existe encore dans la Grande Chartreuse, dans les Alpes. C'est un ordre extrêmement érémitique, avec les cellules, mais qui...
On est maintenu dans des cellules
où... Normalement, on ne voit pas trop les autres, mais malgré tout... il est assez démocratique d'une certaine manière. Donc il y a un balancement entre cet érémitisme et cette démocratie.
Et là, l'abbé ne s'appelle pas abbé,
mais prieur.
Mais prieur.
Et puisqu'une réflexion s'est présentée à propos du prieur, il faut ajouter comment celui-ci a coutume de se comporter dans les affaires de la maison dont il a reçu la charge. Si donc quelque affaire importante ou grave doit être traitée, le prieur ordonne à tous les moines de se réunir ensemble. Et là, quand tous auront librement manifesté leur opinion, il décide ce qu'il estime le meilleur et le plus juste, sans aucune acception de personne. Et l'on observe absolument ce principe très utile et très juste, que nul n'ose défendre avec obstination l'opinion d'un autre ou la sienne, afin que le bien de la délibération ne se change pas en discorde ou en colère, ce qu'à Dieu ne plaise. Mais dans les affaires de moins d'importance et plus ordinaires, le prieur s'en tient seulement à son propre avis ou au conseil des religieux les plus prudents.
Voilà donc un texte qui date de 1121-1128, début du XIIe siècle.
Voilà, et le mot important, c'est délibération. Voilà.
Délibération.
C'est le mot qui va arriver parce que les premiers chartreux sont liés au monde des écoles, en particulier de Reims et d'ailleurs.
Les écoles qui sont installées au cœur des cathédrales.
Au cœur des cathédrales et dans lesquelles on va renouveler l'étude de la rhétorique et redécouvrir un autre mode de parole qui était en gestation chez Cicéron et chez la rhétorique gréco-romaine, qui est la délibération, avec des règles particulières. Comment doit-on délibérer et qu'est-ce que ça entend comme forme de langage?
Et en particulier avec cette idée qu'il ne faut pas défendre avec obstination son opinion ou l'opinion d'un autre, en l'occurrence parce que tout cela créerait de la discorde et de la colère dans une réunion qui se veut au contraire une réunion d'apaisement et de discussion de paix, pourrait-on dire, Charles de Miramont.
À la fois de paix et à la fois, il faut que aujourd'hui, comme dans nos réunions actuelles, il faut que les gens posent leurs éléments de manière, leurs points, qu'il y ait un ordre du jour, qu'on discute du sujet et pas d'un autre, etc., etc. Donc la délibération avec des mots et des expressions qui sont très différentes parce qu'elles viennent du monde gréco-romain d'Aristote, de Cicéron et d'autres, de Boès, essaye de dire qu'une décision doit être pesée, comme aujourd'hui, avec des pour, des contre et avec des arguments qui sont délimiter et prouver.
Et là, vous dites, tout cela doit beaucoup, là, en l'occurrence, on parle de cet ordre des Chartreux, on pourrait parler de l'ordre des Cisterciens aussi, dont vous dites effectivement que parce qu'il s'étend de manière très très rapide tout au long du XIIe siècle, eh bien, il a besoin effectivement de donner des règles qui sont les mêmes à toutes les abbayes qui vont dépendre de l'ordre de Cîteaux, en l'occurrence. Mais vous dites, il faut revenir à ce qui se passe dans les chapitres séculiers, en particulier autour de ces cathédrales, où là, il y a des décisions qui sont prises, justement, où on débat, où on discute, où il y a de la délibération. Et c'est peut-être de ces chapitres séculiers que naît, justement, un ordre de la délibération nouveau au cœur de ce XIIe siècle médiéval.
Tout à fait. Alors, ce qui est spécifique dans ces ordres du XIIe siècle, comme les chartreux et les cisterciens, c'est qu'ils recrutent leurs membres tardivement, quand ils sont adultes ou adolescents.
Donc ils sont formés.
Ils sont formés ailleurs. Ils sont formés où ? Dans les chapitres séculiers, dans les cathédrales ou dans les écoles qui gravitent autour. Et c'est là où ils vont apprendre une espèce de culture cléricale qu'ils vont répercuter ou adapter dans ces nouveaux ordres. Et cette culture cléricale, en particulier, c'est une culture qui part sur un renouveau de la rhétorique et sur un renouveau de questions sur qu'est-ce que c'est que le langage, le bon langage. Alors il y a des réflexions grammaticales, mais il y a aussi des réflexions sur comment on fait un discours judiciaire, comment on fait un discours devant une assemblée ou devant un peuple, et comment on fait un discours devant ce qu'on appellerait, qu'ils appellent délibératif, que j'appelle un discours devant une réunion.
Voilà. Dans un petit conseil.
Dans un petit conseil, on doit prendre une décision collective.
Et effectivement, alors vous citez par exemple le cas de Guillaume de Champeau, qui est lui du côté du chapitre de Laon, qui, vous le rappelez, au début du XIIIe siècle est le principal chapitre de France, en l'occurrence. C'est un modèle méritocratique, dites-vous, ce chapitre de Laon. Et Guillaume de Champeau distingue bien ce qui est de la délibération qui pèse le pour et le contre, du conseil et du judiciaire, qui n'est pas la même chose.
Voilà. Alors, Guillaume de Champeau, c'est le maître d'Abélard. Donc, ça va être le premier enseignant à Paris. Il commence sa carrière à Laon et il va finir sa carrière à Paris. Il va devenir ensuite évêque de Châlons-en-Champagne. C'est un personnage extrêmement important qu'on redécouvre actuellement, sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé. Et Guillaume de Champeau a écrit un commentaire extrêmement intéressant sur la rhétorique. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il, chez Cicéron, si vous voulez, Cicéron, c'est un orateur qui met de manière assez proche le travail de politicien qu'il a, de discours, et celui d'orateur devant un juge, donc ce qu'il appelle le judiciaire. Or, Guillaume de Champeau, et c'est un trait caractéristique de l'Église médiévale, va plutôt rapprocher le délibératif, donc la discussion en pesant le pour et le contre, et le judiciaire. Et c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui encore dans la révolution juridique du XIIe siècle qui se continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que un jugement, un argument d'un avocat, ça doit être quelque chose de très construit, pesé, appuyé sur des points de droit, etc., etc. Et les effets de manche ont une part dans les prétoires, mais une part qui est relativement limitée.
Mais vous dites tout de même que cette invention médiévale du chapitre séculier, de cette discussion, de cette délibération au sein de ces chapitres cathédraux, va prendre un certain temps avant de migrer vers justement le monastère. Vous dites qu'à Cluny, par exemple, il faut peut-être attendre le XIIIe siècle pour voir que effectivement le chapitre à Cluny devient un vrai lieu de réunion où on débat des affaires du monastère. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour pouvoir justement que ce régime que vous décrivez pour les chapitres séculiers s'impose dans tous les monastères.
Oui, parce que à la fois, il y a cette invention de ce qu'on pourrait appeler de régime participatif ou consensuel. De l'autre côté, il y a une peur énorme que le pouvoir échappe à ceux qui veulent l'exercer. Et ils vont chercher au contraire à contrôler, à limiter les gens qui peuvent prendre des décisions, à limiter aussi l'ordre de parole pour ceci.
Et donc, on pourrait vous dire, il y a effectivement ces chapitres séculiers, il y a effectivement ce qui se passe à l'intérieur des monastères avec la règle de Saint-Benoît, Charles de Miramont, mais il y a tout de même une autre instance, qui est l'instance du concile, et cette instance est une instance beaucoup plus ancienne que ce que vous nous décrivez avec naissance au XIe siècle des chapitres séculiers. On lit un extrait de texte, Nathalie Canouy.
Avant le coucher du soleil, du jour désigné, tous ceux qui ont quelque charge dans l'église devront sortir. Et on fermera toutes les portes à l'exception de celle par laquelle les prêtres ont l'habitude d'entrer et devant laquelle se tiendront les portiers. Les évêques convoqués entreront ensemble et prendront place d'après le rang de leur ordination. Après que les évêques soient entrés et se soient assis, on appellera ensuite les prêtres qui ont été invités à participer. Après ceci, le diacre, qui ont été déclarés dignes d'assister au concile, entreront. Les évêques s'asseoiront en cercle et les prêtres s'asseoiront derrière eux. Les diacres, au contraire, se tiendront debout devant eux.
Un extrait d'un texte du canon du Concile de Tolède, je pense, c'est cela, en l'occurrence, Charles de Miramont.
Alors c'est un, ce qu'on appelle un ordo, c'est-à-dire la manière dont on organise protocolairement le concile. Et ça, c'est l'un des premiers textes qui date de 633.
Oui, donc on est, pour ceux qui ont vu le film de Nanni Moretti, Habemus Papam ou tout un tas d'autres séries qui traitent des papes, et en particulier les Borgia, ils connaissent effectivement cette idée des portes closes, etc., etc. Et donc on peut se dire, mais il y a déjà cela dans l'Église des origines, dans cette idée de se rassembler et de trouver la meilleure décision pour pouvoir élire un pape en l'occurrence.
Alors l'élection du pape arrive plus tardivement et plus de manière plus complexe à partir du XIe siècle. Il faut voir que le mot élection en latin veut dire simplement choix, et que donc la manière dont on choisit les gens, c'est assez compliqué. Il y a des, ça ne veut pas dire élection dans le sens vote actuellement. Donc il y a des modes assez variés et assez différents de choisir des gens. Il faut savoir aussi que le concile, certes, il y a sans doute des parts où on discute, où on débat, mais ce sont aussi des lieux judiciaires où, par exemple, on excommunie des gens. Et c'est aussi des endroits où on récite des tonnes de psaumes, de prières, dans un ordre extrêmement codifié. Et c'est aussi un endroit où on lit le texte de la loi. C'est quelque chose que nous on n'a plus aujourd'hui, c'est-à-dire des réunions où simplement on vous lit le règlement. Pour que vous le rappelez, que ça vous rentre dans vous. Et la part du débat va grossir à partir essentiellement du XIe, XIIe siècle.
Et donc, on a un autre texte que vous pouvez nous lire, Nathalie Canoui, qui est donc tiré de vos travaux, Charles de Miramont. En l'occurrence, c'est Arnaud, abbé de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, qui donne son avis sur les conciles. Vous pouvez nous présenter cet Arnaud?
Alors, c'est un personnage amusant parce que c'est à Sens, à Saint-Pierre-le-Vif, c'est un abbé qui va se mettre en scène dans la chronique de son monastère comme un très bon gestionnaire. Il va expliquer tous les efforts qu'il a fait pour mieux gérer les biens de son monastère. Et en particulier, il va montrer comment il s'agite dans tous les conciles et toutes les réunions et tous les synodes de son époque pour avancer les dossiers de son monastère.
L'an 1116, cette année, l'abbé Arnaud envoya à Langres le moine Gobert au susdit évêque Josserand lors du synode qui, selon la coutume, se tient après Pâques. Il emportait des lettres de l'archevêque d'Imbert en faveur de notre affaire. L'évêque y répondit en mandant à l'abbé qu'il se rendrait à Sens, à la cour du roi, et que là, il s'entretiendrait avec lui. Ce qu'il fit. Quant à Renard, il lui donna jour au Risset, à savoir le jour après la fête de Saint-Barthélemy en août. L'abbé y alla, bien que fort éprouvé par la maladie, mais il n'y trouva ni juge ni défendeur. Et ainsi, déçu, revint chez lui. C'est pourquoi, lors d'un autre synode qui eut lieu après la rentrée des raisins, l'abbé envoya de nouveau le susdit moine Gobert avec les lettres dont voici copie.
Alors là, il faut que vous nous éclairiez quand même.
Alors c'est Risset, donc c'est une petite église dans l'Aube, et il se dispute avec d'autres abbayes pour savoir qui a les revenus de cette église. Donc c'est une affaire minuscule qui va durer presque un siècle pour être résolue, avec finalement un partage en deux, un jugement de Salomon. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit l'esprit de chicane qui est rentré dans l'église très fortement à partir de ce moment-là. Et on essaye d'assigner son adversaire pour qu'il vienne. On va voir l'archevêque pour lui dire « appuie mon dossier ». Après, on va en voir un autre évêque qui dit « ne m'oubliez pas ». On essaye de s'informer, de savoir « ah, il y a une réunion, un concile, il faut absolument que j'envoie quelqu'un ». Donc on voit cette espèce d'effort qu'il met en scène et dont et qui va devenir une des tâches fondamentales de tout abbé ou de tout supérieur d'une institution religieuse au Moyen-Âge, défendre judiciairement dans les conciles les biens de l'abbaye.
Alors Charles de Miramont, vous nous expliquiez tout à l'heure que au fur et à mesure de l'avancée des années et des siècles, eh bien grossissait cette question de la délibération, du débat, de la discussion au sein de l'Église. Elle arrive à maturité, selon vous, à quelle période? Vous arrêtez votre propre travail au XIIe siècle, mais j'imagine que un peu plus tard, elle est encore plus forte, je ne sais pas.
Non, finalement, ça marche plutôt par des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'Église se veut très délibérative, et d'autres moments où elle a peur, où elle se réduit pour différentes raisons, et on va voir un gouvernement plus d'experts, de technocrates, vraiment petit nombre, ce qui est le cas plutôt à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle. Et puis à la fin du Moyen Âge, au contraire, va remonter cette idée d'une plus grande consensualisme, une plus grande discussion, et au contraire un rejet de la trop grande technicité de certaines décisions. Donc c'est en fait des cycles plus qu'une progression linéaire.
Oui, c'est donc vous voulez rompre en cela, effectivement, avec cette vision un peu téléologique qui était à l'œuvre, en particulier, on le disait tout à l'heure, avec Caroline de Coster au début de la Troisième République, avec cette idée qu'effectivement on serait monté comme cela, sans à-coup, pourrait-on dire, la décision majoritaire au sein d'une société qui se serait petit à petit laïcisée. Alors, vous avez écouté ce que disait Charles de Miramont, Caroline de Coster, vous qui êtes spécialiste plutôt de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle et du règne de Philippe le Bel, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ce transfert ou non de ces processus de décision, de conseil, mais aussi d'assemblée qui sont à l'œuvre donc à la période qui est la vôtre en rapport avec la période qui était décrite par Charles de Miramont, c'est-à-dire plutôt le XIIe siècle?
Bien, à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, c'est vrai que ces transferts sont une évidence, pas simplement pour les assemblées, pour le processus de délibération, mais finalement pour tout ce qui est globalement la construction des institutions, du pouvoir royal et du droit public également. Alors, en ce qui concerne la question qui vous intéressait, celle des états généraux, il y a un double aspect à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse au règne de Philippe le Bel, vraiment le moment où la consultation des trois ordres va prendre une envergure nouvelle.
Il faut préciser que les trois ordres, en l'occurrence, ne sont pas ceux que l'on connaît en 1788-1789. Il y a là le clergé, la noblesse et les bonnes villes, c'est cela ?
C'est cela, c'est-à-dire qu'il y a la noblesse, le clergé et les représentants des villes. Alors, on ne convoque pas à chaque fois les mêmes villes. Généralement, effectivement, on va d'abord solliciter les bonnes villes, c'est-à-dire celles à qui le roi reconnaît ce titre de bonne ville, des villes qui donc seront particulièrement proches du pouvoir royal, qu'il sollicite en priorité, et progressivement, quand on a besoin d'une audience plus large, eh bien, on peut solliciter plus largement les villes. Je vois sous le règne de Philippe le Bel, la première assemblée a lieu en 1302, et effectivement, là, on envisage plutôt les bonnes villes. Quand on convoque quelques années plus tard une assemblée en 1308, eh bien, on va convoquer ce qu'on appelle les lieux insignes, c'est-à-dire les villes ayant un marché. Donc, c'est-à-dire une forte proportion des villes. Donc, ce troisième ordre, il est encore
en gestation,
malléable.
Oui.
Malléable, si je puis dire, plutôt.
Et donc, ces assemblées donc convoquées par Philippe le Bel ont-elles le caractère délibératif, le caractère prédémocratique, plus ou moins, même si Charles de Miramont me corrigerait sûrement avec ce terme de prédémocratique, qu'ont ces réunions qu'il peut y avoir, par exemple, soit dans les monastères, soit dans les chapitres séculiers. Ça n'est pas du tout ce que vous voyez quand vous vous y intéressez. C'est-à-dire, vous dites là encore, le 19e siècle et les premiers historiens de la République ont voulu voir dans ces assemblées, effectivement, quelque chose qui préfigurerait les assemblées donc de la Révolution française. Et ça n'est pas tout à fait le cas, Caroline de Coster.
Non, elles sont tout à fait différentes. Pourquoi ? Parce que lorsque Philippe le Bel décide de convoquer ses assemblées, il le fait dans un but politique particulier. Il convoque ses assemblées dans un contexte de crise, de tension très forte avec la papauté. Si on prend l'exemple de 1302, Philippe le Bel est en conflit ouvert avec le pape Boniface VIII. Boniface VIII est un représentant de ce qu'on appelle la théocratie pontificale, c'est-à-dire qu'il estime avoir un droit de regard, si on veut, sur le gouvernement des rois. ce qui est tout à fait inacceptable pour Philippe le Bel. Donc le conflit politique va monter et Boniface VIII va décider, justement, nous parlions des conciles, eh bien, de convoquer un concile de prélats français, exclusivement français, originaires du royaume de France, c'est-à-dire pour, il commence, disons de manière classique, en disant pour voir à identifier et réformer les abus dont peut être victime l'Église de France, mais aussi contrôler, éventuellement réformer le gouvernement de Philippe le Bel.
Mmh. Et ça, il donc, ne veut pas l'accepter, contexte, en l'occurrence, Philippe le Bel.
Ah, c'est parfaitement inacceptable. Donc, il va, disons, se placer sur le même terrain, répondre à Boniface VIII avec ses propres armes.
C'est-à-dire qu'il aurait pu, il aurait pu faire un conseil, comme le faisaient les grands rois capétiens avant lui, un conseil de féodaux, de proches, d'administrateurs du royaume, mais il décide, puisqu'on convoque un concile qui donc va rassembler un grand nombre de populations en face, d'une certaine façon, du côté du pape, il décide de faire la même chose. C'est ce que vous expliquez, Caroline de Coster.
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Effectivement, Philippe le Bel n'est pas le premier à être en conflit avec la papauté. Généralement, les rois convoquent un conseil élargi. Mais là, on veut vraiment une résonance très grande. Et donc, Philippe le Bel va décider de manière très rapide, en quelques semaines, une fois reçu la bulle de convocation au concile, eh bien, qui arrive en décembre, dès la mi-février, il décide... Enfin, il envoie des lettres de convocation dans tout le royaume, en direction des nobles, en direction du clergé, et aussi, ce qui est la nouveauté, c'est qu'il va convoquer les villes, disons, à une envergure sans précédent.
Donc une sorte de bourgeoisie urbaine, pourrait-on dire, c'est cela ?
Tout à fait. Lorsque le pouvoir royal, de toute façon, discute avec les villes, par définition, ils discutent avec les notables des villes. Ce sont ces notables qui, d'une certaine manière, trustent bien le gouvernement des villes. Et ce sont eux qui sont, par définition, le partenaire de dialogue du pouvoir royal.
Mais ce qui est très intéressant dans vos travaux, Caroline de Coster, vous qui avez travaillé sur ces assemblées, ce régime d'assemblées sous Philippe le Bel, au début du XIVe siècle en France, c'est que vous expliquez bien, vous travaillez... précisément sur la prise de parole. Qui prend la parole dans ce genre d'assemblée et comment est-elle accordée, cette parole? Alors, ces assemblées, vous en avez déterminé plusieurs. Outre cette assemblée convoquée le 10 avril 1302 à Notre-Dame, qui a donc été considérée plus tard comme la naissance des États généraux, avec la convocation de ces trois ordres, vous dites, en fait, souvent, ceux qui prennent la parole, ce sont les proches du roi, ce sont eux qui prennent la parole, et quand ils ne la prennent pas, ce qui peut arriver, les conseillers du roi se débrouillent pour que ceux qui prennent la parole soient, dans cette assemblée supposée aujourd'hui démocratique, soient des gens qui sont proches de la cour, et donc que ces clercs ou ces bourgeois de Paris qui prennent la parole, eh bien comme Jean de Montigny, soit par ailleurs conseiller du roi, ce qui ne fait pas de mal. On ne dit pas qu'ils sont conseillers du roi, mais ils sont bourgeois de Paris.
Oui, tout à fait. C'est la manière dont on présente les choses. On va dire, voilà, un bourgeois de Paris prend la parole et présente une adhésion marquée à la politique royale. Mais évidemment, on ne dira pas, on ne trouve pas trace dans les sources sur les assemblées du fait qu'effectivement, il peut être, par exemple, un conseiller du roi, ou il peut être membre du Parlement. Le Parlement, Cour de justice souveraine, ça, on le trouve en fouillant ailleurs et en recoupant un petit peu les listes de conseillers ou les listes de membres du Parlement.
Et donc en contestant plus ou moins les interprétations qui ont été faites au XIXe siècle de cette naissance d'une démocratie par l'intermédiaire de ces états généraux. Et vous dites par exemple que ce que veut aussi Philippe le Bel et ce que veulent les légistes autour de Philippe le Bel, Caroline de Coster, c'est la plena potestas. Alors il faut nous expliquer en droit, parce que je ne suis pas spécialiste de droit, en quoi c'est important que de demander la plena potestas, parce qu'il y a ceux qui peuvent venir et ceux qui ne peuvent pas venir. Et simplement, y a-t-il un mandat impératif ou un mandat qui est relativement large de la part de ceux qui ne peuvent pas venir et qui donne leur pouvoir, pourrait-on dire, à ceux qui peuvent assister à ces assemblées ? C'est toute la question selon vous, Caroline de Coster.
Alors la plena potestas, c'est un concept juridique. La plena potestas, en fait, c'est un élément de la procédure judiciaire, de la procédure romano-canonique, en fait, qui fait que dans un procès, lorsque une personne ne peut pas se déplacer, elle va nommer un procureur, et à ce procureur, on exige qu'elle donne la plena potestas, c'est-à-dire que ce procureur pourra faire tous les actes que la personne aurait dû faire si elle s'était déplacée. Et elle sera liée par ses actes. Et donc on va également exiger cette plena potestas, tout simplement pour des raisons pratiques, éviter l'engorgement des juridictions, c'est-à-dire d'avoir comme ça un procureur qui dise « mais attendez, je n'ai pas le pouvoir, les pouvoirs nécessaires pour prendre cet acte, je vais consulter la personne qui m'a mandé et je reviens après oui. ». Ça n'est pas possible. Donc cette plena potestas, elle est une institution judiciaire. Et donc les penseurs politiques, puis les pouvoirs politiques, vont s'y intéresser. Parce que l'idée, c'est d'avoir, lors de l'Assemblée, des gens qui peuvent engager leurs commettants. La plupart du temps, lorsque vous lisez les procurations, on est un petit peu méfiant, on dit bon... On nomme tel procureur, mais simplement pour voir, entendre et nous rapporter ce qui aura été dit. Donc toute la question, et cette question finalement, elle va filer toute l'histoire des États généraux, c'est d'avoir des participants aux assemblées, des représentants qui soient capables d'engager leurs commettants.
La parole de ceux qui ne sont pas là, d'une certaine façon.
Tout à fait.
Et ça, c'est important parce que, dites-vous, dans un contexte où, disons, le roi a quand même un peu la pleine main sur ses premières assemblées des États généraux, il peut ainsi obtenir ce qu'il souhaite de ceux qui sont présents et au titre que c'est ceux qui sont présents ont le pouvoir de parler pour ceux qui ne sont pas là.
Oui, tout à fait. Alors, les assemblées sous Philippe IV le Bel restent entièrement dans un contexte politique. Mais prenez la question, si le roi réunit une assemblée pour une question fiscale, il souhaite obtenir, concrètement, il a besoin d'argent, et on a besoin d'argent principalement pour mener la guerre, et il souhaite ainsi prélever un nouvel impôt, obtenir des subsides, il faut que ceux qui viennent puissent engager ceux qui ne sont pas là. C'est fondamental.
Et donc, vous dites en fait que dans beaucoup des cas que vous avez remarqués, sur lesquels vous avez travaillé, Caroline de Coster, en tant que spécialiste d'histoire du droit et de ce droit donc médiéval du tournant du XIIIe et du XIVe siècle, les structures de l'Église, dites-vous, ont eu une certaine influence, on ne dit pas si c'est beaucoup ou un peu, sur le développement de ces structures étatiques. Et on y travaille, j'imagine, autour de la naissance de l'État royal. Beaucoup d'historiens, depuis quelques dizaines d'années maintenant, travaillent sur cette porosité, pourrait-on dire, des structures de l'Église d'un côté qui se seraient transférées dans les structures d'un État qui se voulait séparé justement de cette même Église.
Bien, ce transfert, il s'explique déjà parce que progressivement, les Capétiens vont s'entourer d'un conseil, de conseillers beaucoup plus professionnels, d'une certaine manière, plus simplement des féodaux, mais des gens qui seront peut-être d'origine plus modeste étant très relatif, mais qui auront fait des études de droit, en fait.
Et où fait-on
droit romain, droit canonique.
Et où fait-on des études de droit, effectivement, c'est au sein de l'Église, en l'occurrence.
Eh bien, au sein de ces universités, oui, effectivement. Oui. Ce sont des juristes déjà de très haut niveau. Et donc, ils sont capables de piocher ce qui les intéresse dans le droit romain, dans le droit canonique, et de l'adapter. Donc, si vous voulez, ça n'est pas un simple décalque. C'est véritablement une adaptation aux besoins politiques d'un pouvoir royal qui est en mutation, qui devient souverain. Donc c'est ce qui explique ce transfert progressif.
Progressif, effectivement, tout au long de ce Moyen-Âge. Charles de Miramont,
vous voulez m'interroger ? Oui, ce qu'a dit ma collègue, et ce qu'on peut résumer peut-être pour les auditeurs, c'est que l'Assemblée, à cette époque-là, elle est rare. Là, apparaît normalement, par rapport à nos assemblées actuelles, elle est beaucoup plus rare. elle est généralement une assemblée pour, et ça c'est le cas pour l'Église, et ça va être aussi pour les États, pour d'assentiment.
Oui.
Le souverain, que ce soit le pape, que ce soit l'évêque, que ce soit l'archevêque ou le roi, propose quelque chose et demande l'assentiment, généralement demande de l'argent. Bon, souvent de l'argent pour mener la guerre ou pour mener une croisade, etc. Et dernière chose, il y a l'idée que ça se situe dans un moment de crise. Alors cette crise peut être, et qu'il faut une réforme, c'est un mot qui va apparaître dans toutes ces assemblées et de manière assez vague, réforme de l'Église, réforme de l'État, réforme du gouvernement. Donc il y a cette contradiction, une certaine contradiction entre d'un côté la demande du pouvoir, du supérieur simplement aux inférieurs d'assentir, et l'autre côté qui peut remonter d'en bas, une demande distincte ou claire, avec quelquefois même des programmes de réforme, qui, à ce moment-là, se rapprochent de plus en plus de nos assemblées contemporaines, où il y a un véritable pouvoir dans l'Assemblée même.
Oui, donc on est loin d'un mouvement pré-parlementaire, Caroline de Coster, mais on est encore dans la gestation de un nouveau mode de gouvernement, pourrait-on dire, sous Philippe le Bel. Vous expliquez que, par exemple, il convoque une assemblée le 15 octobre 1307, c'est-à-dire 2 jours après avoir fait arrêter tous les Templiers du Royaume de France. Donc c'est à chaque fois, comme pour son combat avec Boniface VIII en 1302, c'est à chaque fois pour pouvoir voir la totalité ou des représentants du peuple de France, pourrait-on dire, assentir à sa propre demande, en l'occurrence Caroline de Coster.
Oui, d'une certaine manière, c'est pour, disons, y voir des lieux où on va diffuser très rapidement les éléments de la propagande royale. C'est ça qui est fondamental. Les gens sont là, d'une certaine manière, pour être d'accord. On n'attend pas d'eux une réponse, si ce n'est un appui inconditionnel à cette politique.
Mais néanmoins, on peut dire que il y a là tout de même des lieux où on se rend compte, où on se croise, où même si on assentit à la fin à la décision royale, on peut, par devers soi ou entre soi, trouver que c'est un peu exagéré, commencer à avoir une opinion, en l'occurrence,
sur le Miramont. Tout à fait, c'est ce qui s'est passé avec le conciliarisme, c'est-à-dire ces grands conseils qui ont, au moment du grand schisme, ont essayé de remettre en cause le pontificat à la fin du Moyen-Âge. Hier comme aujourd'hui, les assemblées se passent pas toujours bien. C'est-à-dire qu'on peut vouloir convoquer une assemblée ou une assemblée générale, par exemple, pour réformer la France, et ça se passe pas comme le souhaite le président de la République. De la même manière, au Moyen-Âge, une assemblée a sa propre vie en soi, et il peut se passer un certain nombre de choses bizarres. Et c'est généralement quand il se passe ces choses bizarres, quand il se passe ces choses de conflit, qu'on a le plus de documents. Parce que c'est là, évidemment, où on veut consigner ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on étudie le plus. C'est les mauvaises assemblées, les assemblées qui se terminent mal, où les gens se disputent, voire se battent, plutôt que les assemblées où tout se passe bien. Et généralement, on a très peu de documents sur celles-ci.
Oui, mais ce qui est quand même très intéressant quand on s'approche de cette période médiévale, c'est qu'on a voulu y voir de façon téléologique en pensant vers la fin, donc en partant de la fin, donc le début d'une sorte de démocratie en œuvre ou en plein cœur du Moyen-Âge. Vous, ce que vous montrez, Charles de Miramont, c'est la grande variété. Il n'y a pas un seul modèle. Il y a des modèles qui circulent, qui sont empruntés, qui sont délaissés. Et ces modèles montrent une grande adaptabilité, pourrait-on dire, de cette société médiévale à cette discussion, à ce débat, à ces conseils que l'on veut avoir lorsqu'on est un abbé ou un roi.
Alors moi, mon approche, ma théorie, c'est la complexité. C'est-à-dire que quand on a un problème dans une société, on induit un niveau supérieur de complexité. Et de notre côté, on peut avoir des chocs de simplification à certaines périodes, quand on le souhaite. Et la complexité est un moyen de gérer le conflit, d'une certaine. L'exemple parfait, ce sont les villes italiennes, les républiques italiennes comme Venise ou comme Florence, qui, elles aussi, vont reprendre un grand morceau ou créer des choses qui viennent de l'Église et qui vont créer des centaines de comités, de conseils d'une manière extrêmement complexe. Il y a des historiens qui passent leur vie à étudier comment ça fonctionne. Et ce sont des modes de gouvernement qui ne sont pas vraiment démocratiques, mais qui cherchent à faire participer de plus en plus de gens, avec des limites, des clôtures, des moments où ça s'ouvre, des moments où ça se ferme, mais qui cherchent à élargir, d'une certaine manière, la recherche d'un consensus ou d'une opinion publique particulière qui se crée à ce moment-là.
Donc ce qu'il faut, quand on pense à cette période-là, c'est éviter la simplification, en l'occurrence, et au contraire, redonner à ce Moyen-Âge-là le chatoiement de ces multiples possibilités, Charles de Miramont.
Voilà, il faut étudier la complexité en tant que telle et comprendre d'abord, ce qui va prendre beaucoup de temps, et ensuite voir à quoi elle sert. Voilà.
Caroline de Coster, vous êtes d'accord avec cette analyse, en l'occurrence ?
Ah, tout à fait. Il faut toujours être méfiant quand on étudie des sources médiévales, de pas justement projeter nos propres réalités dessus. Et surtout, effectivement, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles apparaissent au premier temps de lecture.
Merci à tous les deux. Si nos auditeurs ont envie de vous lire, Caroline de Coster, on peut trouver certains de vos articles, en particulier sur les sites donc très renommés que sont Cairn, que sont revue.org peut-être, mais aussi on peut vous trouver ailleurs.
Ben écoutez, pour l'instant, je prépare justement la publication de ma thèse de doctorat.
Bon,
donc ce sera là le plus simple, je pense.
Et ça sera d'ici une année au moins.
Oui.
Voilà. Merci Caroline de Coster. Et pour vous, on attendra aux belles lettres l'année prochaine votre travail.
Ça va s'appeler le tournant canonique.
Merci, merci en l'occurrence Charles de Miramont. Et merci à Nathalie Canoui qui a lu pour nous les textes aujourd'hui. Francesca Fossati, Aurélie Marseille avaient préparé cette émission. Emmanuel Morse-Duncan nous a accompagnés à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Demain, nous nous intéresserons à l'espace donc de l'Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis. Comment un pays nouvellement créé, donc les États-Unis, ont-ils pensé leur système parlementaire en se séparant peut-être du système parlementaire dont ils étaient issus, celui de la Grande-Bretagne? C'est ce que nous verrons avec nos invités.